implorez le sondeur des cœurs. Veuillez vous reporter à psaume 139. Une prière qui met le cœur en paix est rapportée dans le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pourquoi cette demande résonne-t-elle si profondément dans le cœur de l'homme? Parce qu'elle nous révèle que Dieu est le grand sondeur des cœurs, celui qui sonde nos profondeurs. Quelle plus grande intimité pourrions-nous avoir avec notre Créateur que d'être connus et pris en charge en dépit de toutes nos faiblesses et de tous nos défauts humains? Dieu, le sondeur des cœurs, sait tout de nous et nous aime encore. Nous pouvons être réconfortés par la manière dont Dieu nous traite. Il ne nous condamne pas, même s'il nous voit clairement aller dans la mauvaise direction. Au contraire, par sa miséricorde et sa grâce, il nous guide doucement sur la bonne route. Quel bel exemple pour nous de la manière dont nous devons traiter notre prochain. Nous nous écartons tous du chemin à un moment ou à un autre. Galate nous conseille sur la manière de traiter un frère en pareil cas. Galate 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, la loi de l'amour. Dans le contexte, un fardeau est la conséquence d'une mauvaise décision. Notre cœur peut être juste, mais nous sommes devenus confus dans notre tête. L'un des moyens de restaurer un frère qui s'est laissé entraîner dans une trajectoire mal avisée est la prière. Nous pouvons soumettre la situation à notre Père Céleste, qui sait exactement ce qui se passe et ce qui peut aider. Mais que faire si nous avons l'impression de ne pas obtenir de résultats? Cela arrive peut-être plus souvent que nous ne voulons l'admettre, et la raison en est simple. La personne pour laquelle vous priez a son propre libre arbitre, et vous ne pouvez pas l'annuler. Que faites-vous maintenant? Vous espériez peut-être les voir changer de cap, d'avis ou de cœur, mais en fin de compte, vous ne pouvez pas faire en sorte que ces choses se produisent. D'un point de vue humain, ce genre de situation peut sembler presque insurmontable. Mais lorsque nous nous permettons de penser ainsi, nous oublions notre ressource la plus importante, le sondeur des cœurs. En tant qu'être humain, nous voulons connaître les résultats. Nous voulons savoir comment et quand la situation sera résolue. Et nous pouvons même nous offusquer lorsque la réponse n'est pas immédiatement disponible. Pourtant, Dieu a la situation bien en main. Pour recevoir une réponse, nous devons prendre du recul. Connaissons-nous le besoin réel, même superficiellement? Probablement pas. Savons-nous quoi que ce soit sur la manière d'atteindre le résultat souhaité? C'est encore plus improbable. Nous devons apprendre à nous fier au grand sondeur des cœurs dans la recherche d'une réponse. Il est le seul à pouvoir pénétrer dans le cœur de l'homme. Veuillez consulter le chapitre 2 du premier livre des Corinthiens dans votre Bible. En tant qu'homme faillible, nous devons nous rappeler que seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. 1 Corinthiens 2, verset 10. Car l'Esprit de Dieu, le grand sondeur des cœurs, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Je sais ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais ce qu'il y a dans le tien, mais Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque homme. Veuillez vous reporter à Romains 8. Alors, que devons-nous faire pour voir un changement de cœur pieux de la part d'un autre individu? Nous implorons le sondeur des cœurs de se mettre à l'œuvre pour les atteindre. Cela nous libère d'un fardeau que nous ne pourrions pas porter seuls. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit, Dieu, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le don de Dieu en nous, le Saint-Esprit, intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Souvent, lorsque nous prions pour que quelqu'un change d'avis ou de cœur, nous ne savons pas exactement pourquoi ou comment prier. C'est là que la prière en esprit prend toute sa valeur. Le parler en langue donne une voix aux aspirations de nos cœurs qui ne trouvent pas de mots, et le sondeur des cœurs sait précisément ce que l'Esprit dit pendant que nous parlons. Veuillez vous reporter à Jérémie 17. Nous pouvons être assurés que les intercessions de l'Esprit pour le peuple de Dieu seront toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est important, car le libre arbitre est une limite que Dieu ne dépassera pas dans ses rapports avec l'homme. Comment Dieu traite-t-il les conflits entre la volonté de l'homme et la sienne? Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, l'intelligence, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Veuillez vous reporter à 1 Chronique 28. Dieu examine constamment chacun de nos cœurs et de nos intelligences dans le but de nous donner le meilleur qu'il peut à la lumière de notre liberté et de choix. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. L'omniscient qui sonde les cœurs a une connaissance parfaite de chaque homme. Il sait parfaitement comment parvenir à un changement de cœur là où il y a une bonne volonté, et il peut tracer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Rappelez-vous la promesse du Christ Jésus dans Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Lorsque nous prions, nous devons nous rappeler que Dieu peut orchestrer toutes les circonstances nécessaires pour atteindre le cœur de la personne pour laquelle nous prions. Nous pouvons cesser d'essayer d'arranger les choses par nous-mêmes et nous détendre, sachant que Dieu est sur le coup, jour et nuit, et qu'il se soucie plus de cette personne que nous ne pourrions jamais le faire. Prier en esprit, c'est-à-dire parler en langue, nous aide, dans notre fragilité humaine, à combler le manque de connaissances dans notre vie de prière. Lorsque, par l'Esprit de Dieu en nous, nous parlons une langue que nous n'avons pas apprise, nous reconnaissons notre impuissance à effectuer le changement désiré par nous-mêmes. Nous pouvons parler en langue pour des choses qui dépassent notre capacité à les affecter ou à les contrôler, confiant dans le fait que Dieu travaille en nous pendant que nous le faisons. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous pouvons également tirer profit de ces situations en priant avec notre intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence nous rappelle à qui nous nous adressons lorsque nous prions. Nous pouvons adresser notre demande au sondeur des cœurs, en sachant qu'il a des entrées dans le cœur de l'autre personne que nous n'avons aucun moyen de connaître. Puisque le chemin vers le cœur d'un homme appartient à Dieu et non à vous ou à un autre homme, vous pouvez lui confier la situation, en sachant que c'est la seule façon de la résoudre. Soyez audacieuse et reconnaissez-le à haute voix pour vous-même ou en présence d'autres personnes. Cela vous aidera à réaffirmer votre engagement à laisser la question entre les mains de Dieu lorsque vous la lui présenterez dans la prière. En parlant de prier avec l'intelligence, saviez-vous que la première prière enregistrée après l'ascension a été adressée au sondeur des cœurs? Veuillez vous reporter à Actes chapitre 1. Judas avait été compté parmi les 12. Il s'était vu attribuer sa part du ministère, mais il n'était plus. Après s'être mis d'accord sur deux candidats qui pourraient témoigner avec les 11 de la résurrection du Christ, les disciples prient à l'unisson pour que Dieu les guide. Comment saurait-il à qui Dieu confierait cette responsabilité? En faisant confiance au sondeur des cœurs pour révéler son choix. Acte 1, verset 24. Puis, ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Jude a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Les 12 avaient un ministère et un apostolat spécifique à remplir. Depuis que Jésus les a appelés pour la première fois, les 12 étaient des apôtres des brebis perdues de la maison d'Israël, les ministres des circoncis. L'un de ces deux hommes devait être celui que Dieu avait choisi pour se joindre à eux dans cet appel à l'avenir. Ils avaient besoin que le sondeur des cœurs leur montre qui c'était, et c'est ce qu'il a fait. Il est intéressant de noter dans ce passage que le premier candidat mentionné, Joseph, appelé Barsabbas, pourrait en fait être le même homme que celui qui sera appelé plus tard Barnabas. Bullinger l'a laissé entendre dans sa Bible dite « Companion ». Si c'est effectivement le cas, c'est un autre indicateur de la raison pour laquelle nous devons nous fier à la préscience du sondeur des cœurs. Lorsque les 11 ont pris la décision de remplacer Judas, ils ne savaient pas ce que savait le sondeur des cœurs, qu'il y aurait un jour un apostolat non seulement pour les circoncis, mais aussi pour les incirconcis, et qu'il confierait cet apostolat des incirconcis à Barnabas et à Paul. Mais ils n'avaient pas besoin de savoir. Tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'était l'homme qu'il fallait choisir, et ils ont demandé cette information au sondeur des cœurs, qui sait tout. Le résultat était que Matthias a pu jouer le rôle d'apôtre des circoncis dans le présent, laissant Barnabas en réserve pour le rôle d'apôtre des incirconcis dans le futur. Voyez-vous pourquoi nous avons besoin de consulter le sondeur des cœurs pour être guidés? Parce qu'il est le seul à connaître tous les détails et qu'il est le seul à pouvoir mettre tous les éléments dans un ordre parfait. Nous pouvons nous tourner vers le sondeur des cœurs pour trouver la sagesse de porter le fardeau d'un frère. Nous en découvrons un exemple frappant dans la vie du grand apôtre Paul. Pendant toutes les années où il a exercé son ministère auprès des incirconcis, le grand amour de Paul pour le peuple juif n'a jamais faibli. Si vous tournez en Romains, Romains chapitre 9, on va commencer au verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. » Paul a continué à porter dans son cœur les frères juifs de Jérusalem et de Judée, alors qu'il vivait sa vie dans des pays lointains, accomplissant son ministère apostolique auprès des païens. Nous reprenons le récit de ses voyages dans Actes 20, au verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il s'arrêtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Quelque chose était plus important pour Paul que de prendre le temps de revisiter la ville où, peu de temps auparavant, la parole avait grandi et prévalu puissamment. De quoi s'agit-il? Il devait certainement avoir une raison d'être si pressé. Une quinzaine d'années auparavant, au début d'une famine mondiale annoncée par le prophète judéen Agabus, Paul s'était rendu à Jérusalem avec Barnabas pour apporter à l'église de Jérusalem l'aide charitable des croyants d'Antioche. Environ 8 ans plus tôt, Barnabas et lui avaient promis à Pierre, Jacques et Jean qu'ils n'oublieraient pas, avec les croyants qu'ils servaient, de partager des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité avec les croyants de Judée, dont les ressources étaient limitées si les récoltes venaient à manquer dans ce pays où il ne pleut pas. Jusque-là, tout allait bien. Mais comme nous le verrons bientôt, Paul a commencé à s'accrocher à l'idée qu'il devait lui-même être celui qui remettrait et présenterait la collecte. Pourtant, Dieu avait déjà commencé à lui faire savoir en termes très clairs que ce n'était pas la voie à suivre. Acte 20, verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'intrépidité est une bonne chose, l'entêtement une moins bonne. Il n'était pas encore temps pour lui d'accomplir sa course. Paul avait besoin que quelqu'un attire son attention. Regardez toutes les prières et les supplications qui lui ont été adressées au cours de son voyage. Acte 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé aux anciens d'Éphèse, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. Chapitre 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là à Tyr 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Regardez-moi ça. Comme Paul le savait bien, Agabus était celui-là même qui avait inspiré la première collecte pour les chrétiens juifs. Dieu met vraiment le paquet pour attirer son attention. Malheureusement, il n'écoute toujours pas. Au verset 13. Alors, il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes « Que la volonté du Seigneur se fasse. » Que pouvez-vous faire d'autre? La situation avait atteint un point tel qu'elle déplaçait largement la démarche personnelle de Paul et qu'elle en affecterait beaucoup d'autres. Les croyants qui essayaient de le persuader, reconnaissant cela, ont tout remis entre les mains du sondeur des cœurs. Et comment les choses se sont-elles passées à la fin? Bien qu'il y ait eu des tribulations en cours de route, notamment des épreuves, des difficultés, des naufrages et des emprisonnements, Paul a vécu encore quelques années. Au cours de ces années que Dieu lui a rendues, Paul a écrit les épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, à Philémon, à Timothée, à Tite et peut-être même aux Hébreux. Diriez-vous que les prières des croyants adressées au sondeur des cœurs ont été exaucées? Je pense que oui. Dieu a regardé au-delà de la volonté de son Fils et de ses conséquences pour délivrer un résultat que personne n'aurait pu anticiper. Selon Joël, chapitre 2 et au verset 25, je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, l'Oasile et le Gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Des années auparavant, lorsque Paul a répondu à l'appel à la Macédoine, il est dit dans Actes 16, verset 14, « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ni vous, ni moi ne pouvons offrir le cœur de quelqu'un, mais le sondeur des cœurs le peut. Ce n'est peut-être qu'à ce moment-là qu'il commence à prêter attention. Un de mes proches parents était en phase terminale. C'était un homme au grand cœur, apprécié de tous, extrêmement généreux, même s'il n'avait pas grand-chose. Il avait vécu seul pendant des années à la suite d'un divorce précipité en partie par une consommation chronique d'alcool. Lorsqu'il était sobre, on ne le soupçonnait pas d'être méchant ou malveillant. Mais lorsqu'il ne l'était pas, tout pouvait arriver. Mais aucun d'entre nous n'avait jamais réussi à le persuader de chercher de l'aide. Au fur et à mesure de l'évolution de sa maladie, je me rendais sur place pour lui apporter mon soutien et mon aide physique. C'était une façon pratique de lui montrer mon amour, mais dans mon cœur, j'espérais établir un lien plus profond. Même si nous avions été proches toute ma vie, je ne pouvais pas forcer une telle opportunité. Je devais attendre Dieu. La dernière fois que je suis allé le voir en voiture, j'ai remercié Dieu en route de m'avoir ouvert une porte pour atteindre son cœur. Je ne savais pas alors que ce serait la dernière fois qu'il pourrait tenir une conversation. Alors que nous parlions, je lui demandais s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour lui. Sa réponse m'a stupéfié. Il m'a dit « Tom, je ne suis pas sûr d'être sauvé. » Je ne m'attendais pas à cela. Nous avions fréquenté la même église dans notre jeunesse et avions été croyants toute notre vie. J'ai répondu, « Mais je sais que tu as confessé Jésus comme Seigneur et que tu as cru que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est tout ce qu'il y a à faire. La Bible le dit dans Romains 10, 9. » Il n'en était pas si sûr. « Mais tu as confessé Jésus comme Seigneur, n'est-ce pas ?» La réponse était oui. « Et tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas ?» Encore un oui. « Alors, tu es sauvé ? Il n'y a aucun doute là-dessus. » Je lui ai alors rappelé une rencontre que nous avions eue lorsque j'étais étudiant à l'université. « Tu te souviens que tu es venu me voir quand j'étais à l'université et que nous avons parlé longtemps, tard dans la nuit, sur le parking du dortoir, et que je t'ai amené à parler en langue? » Oui, il s'en souvenait. Mais il n'était pas sûr que ce qu'il avait dit ce soir-là était vraiment du parler en langue. Je lui ai affirmé que c'était vraiment le cas. « Je sais que tu es né nouveau parce que je t'ai entendu parler en langue. Et tu l'as vraiment fait? Il est impossible de parler une langue que l'on n'a jamais apprise sans être né de nouveau. Cela signifie que tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, que tu vas au ciel et que l'enfer ne peut pas t'empêcher d'y aller. » Une larme a brillé dans ses yeux pendant que nous prions ensemble à ce moment-là, alors que je remerciais Dieu de confirmer le salut dans son cœur, une fois pour toutes. Le reste du temps que nous avons passé ensemble ce week-end-là, nous avons partagé une paix et une joie inouïe. C'est la dernière fois que nous avons conversé. Mais quelle réponse plus importante aurais-je pu recevoir à ma prière? C'est le sondeur des cœurs qui nous a conduits à cette dernière rencontre dans cette vie et qui a scellé notre fraternité spirituelle pour l'éternité. Lorsque vous priez pour un être cher, confiez-vous au sondeur des cœurs, sachant qu'il connaît le chemin vers nos cœurs et vers le salut et l'éternité. Et en fin de compte, n'est-ce pas tout ce qui compte vraiment ?